Et c'est l'heure du journal avec Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi 21 mai, la trêve fragile entre le Hamas et Israël après un cessez-le-feu. Sur le front du Covid, quand le futur pass sanitaire vient doper la vaccination, une décision incompréhensible pour le monde de la nuit. Elle crie à l'injustice. Le Conseil d'État n'autorise pas la réouverture des discothèques d'ici au 30 juin. Nous irons dans ce journal en Inde où des victimes du Covid se battent aussi avec un redoutable champignon noir, une mycose qui infecte les tissus humains et les noircit à son passage. Le rugby, Montpellier relève la tête, il remporte son deuxième challenge européen, la petite coupe continentale de rugby, grâce à sa victoire hier devant les Anglais de Leicester.
Les invités du 6-9 du week-end à 7h50 tout à l'heure. Patricia Martin, votre invité?
Patrice Blanc-Francard pour le Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo pendant 3 jours, et c'est un partenariat France Inter.
Et à 8h20, nous recevrons Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, aujourd'hui ambassadrice à l'OCDE. Elle publie « Pousser les murs » aux éditions de l'Observatoire. Elle raconte son parcours professionnel en entreprise, dans le privé, à de hauts postes de direction. Elle a dû pousser des murs pour y arriver. Et bien sûr, elle revient dans ce livre sur son expérience ministérielle pendant 3 ans.
France Inter. La trêve a tout du bon la nuit dernière en Israël et à Gaza après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, alors qu'affluent les promesses d'aide à la reconstruction de l'enclave palestinienne. Situation cependant fragile, de nouveaux affrontements ont éclaté entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël, 20 de blessés parmi les Palestiniens. Et après 11 jours de bombardements de part et d'autre, Israël et le Hamas ont autorisé l'entrée des correspondants étrangers, dont notre reporter Frédéric Mettezo. Il a assisté au retour à la vie à l'intérieur de la bande de Gaza. Reportage.
Zaineb n'avait pas roulé dans Gaza depuis près de 2 semaines. Aujourd'hui, en voiture, elle redécouvre le territoire à la faveur du cessez-le-feu.
J'espère que ça va tenir. Dieu merci, les bombardements sont terminés. On ne va plus entendre les explosions, les drones, les bateaux de guerre tirer lourdement en direction de notre littoral.
La plage, justement, bondée en ce vendredi estival. Ces jours de repos, Nora contemple ses enfants sur le sable.
Dès que nous apercevons une lueur d'espoir, nous profitons. Ces derniers jours ont été terribles. Mes enfants sont petits. Durant les bombardements, l'un me prenait la main, l'autre s'accrochait à ma jambe et un autre encore venait dormir sur mon visage.
La journée est douce, mais Abdelmadjid s'énerve. Ses bras tournent comme les ailes d'un moulin. Du doigt, il pointe le ciel.
Ici, grâce à Dieu, notre bonheur est entre nos mains. Même si la guerre devait durer des années, nous serions quand même heureux. Nous sommes un peuple de martyrs. Nous pourrions encore vivre 20 ans sous blocus. Nous ne craignons pas la mort. Nous surmontons toutes les difficultés. On fait face. Dieu nous accordera la victoire.
En bord de plage, une partie de la promenade a été défoncée par un bombardement récent. Mais d'autres ruines datent de la guerre précédente, il y a bientôt 7 ans. Gaza, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et puis le président américain Joe Biden affirme que la solution à 2 États est la seule réponse possible au conflit israélo-palestinien.
Retour en France, Laurence. 1 Français sur 3 a déjà été vacciné.
22,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection. Et puis tout un quartier de Bordeaux va être vacciné en priorité, car quelques dizaines de personnes ont été testées positives à un variant très rare, un dérivé du variant anglais. Le cluster s'élève à au moins 46 personnes. Et alors que les magasins, les terrasses ont rouvert, toujours pas de réouverture des discothèques à l'horizon. Le Conseil d'État s'y oppose pour le moment. Le monde de la nuit crée l'injustice alors qu'il préconise, ce monde de la nuit, un pass sanitaire qui agit comme un véritable booster. Plus fort que tous les discours et les slogans pro-vaccination, ce sésame a convaincu les plus sceptiques à sauter le pas, et surtout quand ils veulent voyager. Illustration cabinet du docteur Patrick Castin, au Hayan, près de Bordeaux.
Les exemples des demandes les plus pressantes sont des gens qui prévoient surtout des voyages de loisirs à l'étranger ou des vacances. En tout cas, l'aspect médical est relégué en second plan, puisque c'est pas du tout le moteur de leur demande. Et c'est des patients qui étaient assez réfractaires, et puis maintenant, ils n'ont pas de difficulté à évoquer que la liberté de circulation liée à leur loisir est devenue prioritaire. C'est complètement décomplexé. Ce qui est en avance, c'est de faire un constat collectif, de se rendre compte qu'on ne parvient plus à avoir un discours scientifique qui soit suffisamment rassurant pour se passer de mesures comme ça, de passe sanitaire, pour pallier à ce qui semble être quand même un échec du discours scientifique et du discours médical. Dans un système idéal, on aurait pu convaincre tout le monde de se faire vacciner, et puis en fonction des doses disponibles, vacciner au fur et à mesure la population, et sans se poser d'autres questions.
Côté hospitalisation, le nombre de malades continue de baisser. 6000 il y a un mois, 3631 hier. Et puis l'Inde, déjà accablée par une deuxième vague très agressive, doit faire face désormais avec la mucormycose. C'est une infection fongique rare, connue sous le nom de champignon noir. Et cette nouvelle maladie touche en particulier les convalescents du Covid-19. Maux de tête, gonflement du visage, fièvre en quelques jours à peine. La maladie a fauché des centaines de vies. Taux de mortalité supérieur à 54%. C'est la correspondance de Combastin à Bangalore pour France Inter.
Partie de l'ouest du pays, cette maladie rare, mucormycosis de son nom scientifique, se développe désormais dans toute l'Inde. Le champignon noir semble s'attaquer en priorité aux anciens patients Covid, et en particulier les diabétiques. En quelques jours, il provoque des lésions cutanées, des maux de tête, des paralysies faciales, et s'il n'est pas pris en charge rapidement, se révèle souvent mortel. Le docteur Saoud Ahmed travaille au Prime Care Multispeciality Hospital de Bangalore. Il raconte comment la maladie est apparue dans la ville après son premier cas, il y a 10 jours.
Ce patient s'est remis du Covid, mais il se plaignait de terribles maux de tête et de douleurs dans le nez. Nous lui avons immédiatement fait passer un scanner, et le jour d'après, j'ai dû l'opérer parce que la maladie s'aggravait rapidement. Il s'en est remis. Depuis, j'ai eu 4 cas dans mon hôpital. Dans d'autres plus grands hôpitaux, les cas se multiplient et beaucoup en meurent. De plus, nous manquons de médicaments antifongiques contre cette infection.
Les experts avancent plusieurs explications au développement du champignon noir. L'utilisation abusive de stéroïdes et d'antibiotiques dans la lutte contre le Covid, ainsi qu'un manque d'hygiène dans les salles de soins intensifs. 4 États la considèrent désormais comme une pandémie, ont compté quelques 7000 cas en Inde et plus de 200 morts. À Bangalore, Combastin pour France Inter.
Et en raison de la propagation du variant indien sur son territoire, la Grande-Bretagne sera classée à partir de demain par l'Allemagne comme zone de mutation des variants. Autrement dit, conséquence, limitation des voyages de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne, quarantaine de 2 semaines qui ne pourra être raccourcie même si le test est négatif. Aussi, les compagnies aériennes de bus et de train ne seront autorisées à transporter vers l'Allemagne que des citoyens allemands. Une récompense exceptionnelle et un cruel constat pour l'État. 25 ans, Guillaume Rosier reçoit l'Ordre National du Mérite. C'est lui qui a inventé plusieurs services Internet anti-Covid et notamment le site Vite Ma Dose. Vite Ma Dose permet d'avoir en un seul coup d'œil les créneaux disponibles sur les différentes plateformes de rendez-vous. Guillaume Rosier a commencé à travailler sur la pandémie il y a 1 an, alors qu'il terminait tout juste ses études d'ingénieur, spécialisé en intelligence artificielle et traitement des données, les big data. Cette récompense révèle aussi capacité de l'État à produire de tels services simples, efficaces, à destination du grand public.
7h38, le journal avec Laurence Thomas. Laurence, chronique d'une mort annoncée. Un mari violent a été condamné hier à 25 ans de réclusion criminelle par les assises du Rhône.
Pour le meurtre de son épouse qu'il avait percuté et écrasé avec sa voiture, le meurtre de Bernadette avait réveillé les questionnements sur les féminicides, suivi fin 2019 du Grenelle sur les violences conjugales. Comment mieux contrôler les hommes violents, mieux protéger les femmes? Ces questions, Mathilde Imberti, ont plané sur le procès.
L'intention de tuer n'a pas fait de doute pour le jury de la cour d'assises. Les images de vidéosurveillance de l'entreprise de la victime, qui retrace en moins de 3 minutes l'intégralité de la scène, ont rapidement clos les débats sur ce point-là. On y voit un homme calme et déterminé qui, au volant de sa voiture, vient écraser sa femme contre un mur et lui rouler dessus à plusieurs reprises. Lui-même, qui parlait d'accident jusqu'au procès, face à l'évidence, admis qu'il voulait la tuer. Ce drame pouvait-il être évité? En juillet 2019, les bracelets anti-rapprochement qui équipent les maris violents n'existent pas. Et les téléphones danger que l'on donne aux victimes sont peu nombreux, 16 dans la circonscription de Lyon contre 57 aujourd'hui. Ce n'est donc pas le procès de l'institution judiciaire, dira l'avocate générale, mais d'un homme qui a traqué sa victime, malgré le contrôle judiciaire, rapidement mis en place après la première plainte, qui lui interdisait de l'approcher. Depuis la mort de Bernadette d'ailleurs, ces hommes sont systématiquement suivis dans le cadre de leur contrôle judiciaire, ce n'était pas encore le cas. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
C'est le grand jour pour le rugby français, l'un peut marquer l'histoire, l'autre ouvrir son palmarès européen. Toulouse et La Rochelle, les deux meilleurs clubs français actuels, se croisent pour une finale 100% bleu-blanc-rouge en Champions Cup. En fin d'après-midi, ce sera à Twickenham. Mais dès hier, Montpellier est allé chercher une superbe victoire en challenge européen, vainqueur des Anglais de Leicester, 18-17. Un succès au bout d'une saison particulièrement éprouvante où le club a bataillé pour son maintien au sein de l'élite, d'où l'émotion et les nombreuses larmes à la fin de la partie. Le capitaine Guillaume Guirado.
Pour nous, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, c'est extraordinaire. On passe dans un club, c'est toujours important de marquer l'histoire du club. Et quoi de plus beau que de le marquer par rapport à un titre. et par rapport à un groupe qui a dû vraiment rester solidaire, parce que je vous l'ai dit, au mois de janvier, on s'est posé beaucoup de questions. Tout le monde s'est un petit peu insurgé sur nous et a été méchant avec nous et avec le club. On n'a pas oublié et ça nous a donné de la force. Ben voilà, c'est quelque chose de beau et d'unique de lever un trophée. Donc, il faut en profiter quand ça arrive dans une carrière.
Le capitaine de Montpellier, Guilhem Guirado.
C'était le journal de Laurence Thomas. Les couleurs du ciel, la météo, c'est tout de suite.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Avec nous, Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, des averses et de la fraîcheur au programme.
C'est vrai, avec des conditions franchement plus dégradées au nord de la Loire et au nord de la Seine. En fait, la dépression qui campe sur la mer du Nord nous envoie des salves d'averses et même d'orages cet après-midi. Le tout poussé par un vent d'ouest désagréable vers 70 km à l'heure dans des températures basses de l'ordre de 14 à 16 degrés. Plus bas, entre le nord de la Loire, entre la Loire, les Pyrénées, le Massif central, le centre et du Jura-Rhône-Alpes, ciel assez mitigé dans l'ensemble, avec des ondées notamment en cours d'après-midi, parfois des coups de tonnerre en montagne. Et puis attention sur les Alpes, le risque d'avalanche est toujours présent. Il est prévu 18 degrés près de la Garonne et en Rhône-Alpes. Enfin, dans le quart sud-est, après les averses des premières heures, les conditions vont nettement s'améliorer. Il fera une vingtaine de degrés cet après-midi sur la Côte d'Azur et 22 à 24 du Golfe du Lion à la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France, merci.